Alors, aujourd'hui, c'est un dimanche un peu particulier. J'ai l'impression que je dis ça assez souvent en ce moment, avec Pâques la semaine dernière. Mais aujourd'hui est encore un dimanche un peu particulier, parce que cet après-midi, nous allons vivre un moment fort de notre vie en communauté chrétienne. Nous aurons l'Assemblée Générale de notre Église. Alors je pense que ça demande un peu quelques explications pour certains. C'est pas forcément clair, une église qui a une assemblée générale. Ça peut paraître étrange. Alors, la loi française dit que les communautés religieuses doivent se monter en association cultuelle. C'est-à-dire une association qui gère le culte, qui gère tout ce qui touche au culte. Nous, nous sommes chrétiens en France, nous vivons notre foi dans cette société, dans l'obéissance aux lois, et notre communauté existe donc sous forme d'association cultuelle, tout comme la loi le demande. Mais il y a une particularité en France, un petit peu, c'est que la loi est ainsi faite qu'une association cultuelle n'a le droit de gérer uniquement que ce qui touche au culte. Donc si une église veut, par exemple, donner de l'argent à un missionnaire pour soutenir son travail missionnaire, ou à une association caritative, ou à des démunis, aider des démunis qui sont dans le besoin, elle n'en a pas le droit. La loi n'en donne pas le droit à une association cultuelle, parce que ça sort du cadre du culte. Vous serez d'accord avec moi, la mission d'une église, c'est pas que le culte, ça dépasse ça. La mission d'une église, c'est aussi l'amour, la charité, l'entraide et surtout l'annonce de l'évangile. Tout ça, une association cultuelle ne peut pas le faire, en France en tout cas. Donc, les églises doivent également créer une association culturelle qui, elle, a totalement le droit de faire toutes ces choses, que sont la charité, l'entraide ou le soutien missionnaire par exemple. Et c'est l'ensemble de ces deux associations qui constituent de manière légale notre communauté. C'est par ces deux associations que nous pouvons, en France, répondre à toute l'étendue de la mission qui a été confiée à l'Église. Et comme, vous le savez sûrement, des associations en France doivent se réunir en Assemblée Générale, c'est aussi la loi, eh bien cet après-midi, nous aurons l'Assemblée Générale de notre Église. Il faudrait dire les AG, les assemblées générales, vu qu'il y a deux associations, vous le voyez, une cultuelle et une culturelle, il y aura donc deux AG, mais comme c'est l'ensemble de ces deux associations qui permet à notre Église d'agir selon toute la mission qui lui a été confiée par le Christ, eh bien je préfère parler au singulier et dire que cet après-midi, nous aurons l'AG de notre communauté. Et là, vous vous demandez, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Eh bien, toute cette structure légale, cette organisation que nous sommes obligés d'avoir, ça nous fait quand même poser une question. Qu'est-ce qu'une église? Pour l'État, nous l'avons vu, une église, c'est une association. Pour beaucoup de nos contemporains, les gens qu'on croise dans la rue, une église, ça serait avant tout peut-être un bâtiment, un lieu de culte. Ce bâtiment est une église pour nos contemporains. Mais pour nous, qu'est-ce que c'est? Et pour creuser un petit peu cette question, j'aimerais que nous étudions ensemble un texte très court, mais très dense. Ce texte se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 6. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de la ville d'Éphèse. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Vous l'avez dit, C'est court, mais c'est dense. La première chose que j'aimerais retirer de ce texte, c'est qu'une église, d'après la Bible, d'après ce texte, c'est un ensemble de personnes. C'est des gens. Une église, c'est des gens. C'est pas qu'un nom dans une liste associative ou qu'un bâtiment, un lieu de culte. Non, une église, c'est un rassemblement de personnes. Et si ces personnes se rassemblent pour former une église, c'est pas sur un coup de tête, ou pas, parce qu'on trouve ça sympa, pas uniquement. Ce qui fait se rassembler ces personnes en une église, d'après notre texte, c'est avant tout Dieu lui-même. Et je vous relis le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Dieu nous a fait venir à lui. Il a rassemblé des personnes autour de lui et il les a unies en un seul corps, nous dit notre texte. Et ce corps, cette unité, ce rassemblement de ceux que Dieu a fait venir à lui, c'est ça, l'Église. Nous l'avons rappelé la semaine dernière, ça a été aussi rappelé pendant la première partie de ce culte. Cette œuvre de rassemblement et d'unité a été rendue possible par l'œuvre du Fils de Dieu, Jésus-Christ, mort sur la croix pour pardonner nos fautes et pour nous réconcilier avec Dieu. Et Dieu a pu alors, une fois que nous étions réconciliés, nous appeler à lui et nous unir entre nous pour former ce fameux corps qu'est l'Église. L'Église, le rassemblement des croyants, c'est le Christ qui l'a rendu possible par sa mort. C'est ensuite Dieu qui l'a initié en appelant à lui les croyants, selon notre texte. Et c'est enfin l'Esprit de Dieu qui a créé ce lien, cette unité entre nous. Je vous relis pour cela le verset 3. « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Cette unité, ce rassemblement, c'est intégralement l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu le Père qui nous appelle, l'œuvre de Dieu le Fils qui nous pardonne et nous réconcilie, et l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit qui nous unit dans la paix. C'est ce que notre texte nous déclare et c'est ce que nous croyons. Je répète, c'est ce que nous croyons parce que notre communauté a une confession de foi. Un texte qui résume en quelques lignes ce en quoi nous croyons. Et je vous lis un extrait de cette confession de foi qui dit ce que nous croyons sur l'Église. L'Église est formée de tous ceux que le Christ a réconciliés avec Dieu. Habitée par l'Esprit, elle est le temple de Dieu édifié par le Christ. Elle est visible localement dans des communautés qui, nous le croyons, doivent rassembler ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ. Voilà ce qu'est l'Église pour nous, d'après ce que nous enseigne la parole de Dieu. Nous venons de voir ce qu'est l'Église pour nous. C'est le rassemblement des croyants, c'est leur relation, c'est leur unité. Et pour savoir comment vivre en tant qu'Église, il faut avant tout se demander comment est-ce qu'il faut vivre cette relation, vivre cette unité que Dieu a créée. Et c'est aussi ce que notre texte veut nous enseigner quand il nous dit « Je vous demande donc de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Cet appel, c'est celui de Dieu qui rassemble ses enfants pour les unir et notre texte veut nous enseigner comment nous devons vivre cet appel, selon cet appel que Dieu nous lance. Comment nous devons vivre en Église, entre croyants. Et donc c'est ce que nous allons regarder maintenant ensemble, et notre texte nous demande quatre choses différentes à vivre avant tout entre nous, entre croyants, dans l'Église. Premièrement, notre texte nous dit ceci, « Soyez toujours humbles ». Pourquoi ? Eh bien parce que l'Église, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Nous l'avons vu, nous l'avons dit, c'est Dieu qui construit l'Église de A à Z. Et nous, nous y sommes appelés, invités, acceptés, adoptés par Dieu. Pas par les autres croyants, avant tout par Dieu. Donc je dois être humble toujours humble déjà vis-à-vis de Dieu, parce que l'église que je fréquente, ce n'est pas mon église, ce n'est pas notre église, c'est celle de Dieu. C'est lui qui l'a créée, c'est lui qui l'a fait vivre. Mais je dois aussi être toujours humble vis-à-vis des autres croyants qui sont dans cette église, parce qu'ils en font partie avec autant de légitimité que moi. J'ai pas plus le droit qu'un autre croyant de faire partie de cette église. C'est pas parce qu'on est converti depuis 40 ans, qu'on connaît sa Bible par cœur, ou même qu'on est né et qu'on a grandi dans une église, qu'on y est plus légitime qu'une personne convertie depuis une semaine et qui viendrait pour la première fois. La seule chose qui légitime notre présence dans l'église, c'est l'appel de Dieu et notre foi en Jésus-Christ. Soyez toujours humbles, nous dit notre texte. Tout simplement parce que, entre membres de l'Église de Dieu, il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. Notre texte nous dit aussi « Soyez toujours aimables ». Eh bien, ça découle tout naturellement de l'humilité à laquelle nous sommes appelés. En effet, l'humilité dont nous avons parlé nous amène en fait à regarder l'Église et ses membres avec le regard de Dieu, et non le nôtre. On ne doit pas voir nos frères et sœurs en Christ comme on verrait de simples amis, ou des collègues, ou des voisins. Non, on doit les voir avec le regard que Dieu porte sur eux. Et quel est ce regard de Dieu sur nous? Eh bien, Dieu considère que nous avons plus de prix que sa propre vie. Le Fils de Dieu est allé jusqu'à mourir à notre place, pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés et adoptés par Dieu, au sein de son Église. Si Dieu nous a aimés à un point tel qu'il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous, à plus forte raison, entre nous, nous devons nous témoigner à chaque instant ce même amour, cette même amabilité. Être aimable, c'est se donner de l'amour. Soyez toujours aimables entre vous, nous dit notre texte, tout comme le Christ nous a donné la plus grande preuve d'amour qui soit. Soyez toujours aimables, c'est au final un synonyme du commandement que le Christ nous donne, que nous avons relu dans la première partie de ce culte. Aimez-vous les uns les autres, comme moi aussi je vous ai aimé. Puis notre texte ajoute, soyez toujours patients les uns envers les autres. Eh bien, tout comme l'amabilité découlait de l'humilité, la patience, elle, découle aussi de l'amour que nous nous portons. En effet, notre amour nous pousse à la compréhension mutuelle. On veut se comprendre, on veut se connaître, on veut vivre une relation fraternelle forte parce que nous nous aimons. On veut partager l'unité que Dieu nous donne. Mais si effectivement Dieu nous a unis par son esprit, le texte nous l'a rappelé, ça n'empêche pas que nous restons très, très différents. On n'a pas grand-chose en commun. Et là, je vais me prendre pour exemple. Enfin, ce n'est pas vraiment un exemple, je vais parler de moi. Moi, personnellement, je ne suis pas d'ici. Je suis du Sud-Ouest. Je suis né à Castres, j'ai grandi dans le Sud-Ouest, à Toulouse. Je suis ici, avec mon épouse, on est arrivé depuis quoi ? 7 mois, 7-8 mois ? Ça fait 7 mois qu'on est là. J'ai aussi des passions et des loisirs qui ne sont pas ceux du plus grand nombre d'entre nous, je pense, sauf pour ceux qui aiment les jeux vidéo, l'heroic fantasy et le rugby. Je pense que ce n'est pas la majorité d'entre vous. On ne partage pas forcément nos passions non plus. On est très différents les uns des autres. On n'a pas grand-chose en commun. Enfin, regardez-vous, il n'y en a pas 3 qui viennent du même endroit. On est très différents. Donc fatalement, il va arriver des moments où on ne se comprendra pas. On utilisera peut-être les mêmes mots, mais pas pour dire la même chose. Ou alors on n'avancera pas à la même vitesse. Certains vont vouloir mettre en place des projets très vite, avancer dans une direction, organiser une discussion en église dans la semaine qui suit, et d'autres auront besoin de plus de temps, de douceur, d'enseignement, de réflexion et d'accompagnement. On est tous différents, on ne se comprend pas toujours, on n'avance pas au même rythme, mais nous nous aimons. Nous voulons être toujours humbles est toujours aimable entre nous. Et donc cela nous amène, comme nous le demande notre texte, à faire preuve de patience les uns envers les autres, à ne pas perdre courage, à ne pas laisser l'agacement devenir colère, à chercher à se comprendre, à s'édifier les uns les autres, pour que même si on n'avance pas naturellement au même rythme, eh bien au final nous puissions tous cheminer ensemble d'un même pas, dans l'humilité, l'amour et la patience auxquelles Dieu nous appelle dans son Église. Enfin, notre texte nous demande une dernière chose, supportez-vous les uns les autres. Alors jusque-là, on était dans des qualités très très belles, très positives. L'humilité, l'amabilité, la patience, on aime à en parler, et c'est normal dans les églises. Mais maintenant, nous rentrons peut-être dans la partie la plus sombre de l'être humain, mais qu'il nous faut pouvoir reconnaître. Reconnaître chez les autres, mais aussi reconnaître en nous-mêmes. Nous sommes effectivement sauvés, pardonnés, justifiés, adoptés, unifiés dans l'Église par Jésus-Christ, par Dieu notre Père. Mais nous restons malheureusement imparfaits et pécheurs. Nous cherchons dans notre vie chrétienne à développer les belles qualités auxquelles Dieu nous appelle, et l'Esprit de Dieu en nous nous y aide jour après jour, mais nous restons pécheurs. Nous continuons malheureusement à nous mettre en colère, à nous faire du mal, à perdre patience, à oublier l'amour, à ne plus faire preuve d'humilité. Nous pouvons alors nous blesser les uns les autres, parfois gravement, nous blesser par des actes, par des paroles, par des négligences ou par de simples incompréhensions. Ce texte reconnaît nos faiblesses, il reconnaît nos limites, il reconnaît notre péché. Dieu sait, il sait que dans l'Église, nous finirons tôt ou tard par nous blesser les uns les autres. Et lorsque cela arrive, que faut-il faire ? Rompre notre relation, y mettre fin ? Non. Dans ces moments-là, Dieu nous appelle à nous supporter les uns les autres. Mais nous supporter en vue de quoi ? D'une relation brisée, bancale, dans laquelle on ferait semblant ? Non. Non, Dieu nous appelle à nous supporter dans les moments de douleur pour que nous puissions, avec le temps, arriver à nous demander pardon. En arriver, du coup, à chercher à nouveau à nous comprendre. En arriver à reconnaître chacun nos torts, nos faiblesses, nos péchés, notre colère. En arriver à cheminer à nouveau ensemble dans une relation restaurée, réparée avec l'aide de Dieu. En arriver à vivre à nouveau entre nous l'humilité, l'amabilité et la patience auxquelles Dieu nous appelle. Supportez-vous les uns les autres, nous dit le texte, mais il précise avec amour. Dans cet amour. Comme je le disais au début de cette prédication, nous aurons cet après-midi l'assemblée générale de notre Église, mais ça ne veut pas dire que notre Église se résume à une association. Non, ce n'est qu'une manière, qu'un moyen pour nous de pouvoir vivre à la fois l'humilité, l'amabilité, la patience, voire même le pardon que Dieu veut nous voir pratiquer entre nous. Parce que cette Église, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu, que le Christ a rachetée à la croix. Amen.